Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, ça va?
Hello, vous écoutez Salut, ça va? Le podcast qui veut briser les tabous autour de la santé mentale et vous donner des clés pour prendre soin de vous autrement.
Pour aller plus loin, on vous propose désormais un programme de coaching en ligne complet qui met en application des outils concrets et validés.
Rendez-vous sur techcare.co.
Bonne écoute!
Hello tout le monde, bienvenue sur le podcast Salut ça va pour une nouvelle semaine, toujours accompagnée de femmes incroyables. Très heureuse d'accueillir avec Mathilde.
Bonjour.
Anissa.
Bienvenue. Enchantée, merci de me recevoir.
Bah, merci à toi de nous rejoindre.
Avec plaisir.
Dans cette, à chaque fois on aime bien poser le contexte, mais là on est dans une chambre d'hôtel parisienne. Écoutez, il fait drôlement chaud pour un mois de septembre.
Il fait très chaud, très très chaud.
Hein? Donc on cuit un peu, mais... on est bien.
Moi, je suis plutôt à l'aise, tu sais, avec la chaleur.
Toi,
mais...
t'as un thermomètre interne cassé, donc c'est juste. C'est ça.
C'est vraiment ça.
Anissa, merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu peux faire une petite présentation comme tu veux, rapide, pas scolaire, voilà. Qu'est-ce que t'as envie
alors, de dire en quelques... du coup, je m'appelle Anissa, j'ai 22 ans. Je suis créatrice de contenu et militante sur les réseaux sociaux. J'étais aussi accessoirement étudiante en droit. En master de droit pénal international, ce que je ne suis plus. Et j'ai aussi créé du coup le mouvement MeToo Animation pour lutter contre les violences sexuelles sur mineurs dans les colonies de vacances, les centres aérés, etc. Qui est par la suite devenue une association dont je suis présidente et créatrice.
Trop bien, okay. Quel parcours. On va revenir un peu en arrière, mais qu'est-ce que tu as eu toi comme enfance? Enfin, quelle enfance est-ce que tu as eu et qu'est-ce que t'en tires, on va dire, aujourd'hui?
Sujet sensible.
Tu peux dire ce que tu as envie de dire et ne pas dire ce que tu n'as pas envie de dire. Enfin...
j'ai une très belle enfance, je pense. Très, très belle parce que très bien accompagnée avec des parents aimants, quelques daddy issues finalement, quelques problèmes, voilà, comme je pense. Beaucoup de... Je n'ai pas l'impression que c'est un truc... Je ne sais pas si c'est une mode, hein, que les parents qui est le père qui partent à bout de quelques années. Mais un peu un truc dans ce style-là. Et du coup, je suis aussi beaucoup engagée sur la santé mentale, sur les réseaux. Je fais beaucoup de trucs par rapport à ça. Et notamment parce que moi, j'ai dû aller plusieurs fois voir des psys, etc. quand j'étais petite et aussi là récemment. Parce que j'avais beaucoup de problèmes à régler justement par rapport à l'enfance. Donc globalement, une très belle enfance... Je pense que si c'était à refaire, je referais tout exactement de la même manière. Parce que même les mauvais côtés qu'on peut rencontrer quand on est enfant, du fait des traumas, de ci, de ça, ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Et si je suis autant engagée, si je suis autant comme je suis. Donc voilà.
Oui,
quoi.
C'est-à-dire que t'as trouvé des ressources qui t'ont permis d'être aujourd'hui.
C'est ça.
Ouais. Engagé et qui tu es. Mais je pense que tu vois, tu parlais de daddy issues. Je pense que on a tous, dans tous les cas, dans notre. Enfin, quand on entend parler les gens, même, tu sais, au bout de quelques heures après, quelques verres, je ne bois pas, mais tu vois, en soirée, t'as toujours ce truc à un moment donné où on en vient à parler, bien sûr, l'enfance, des parents, des trucs.
De toute façon, c'est l'origine de ce qu'on est. Hein. Tout vient de l'enfance, tout vient de l'éducation, tout vient de. C'est comme ça qu'on s'est construit. Hein. C'est en fonction de ces. La plupart du temps, c'est en fonction de ces traumas. Hein, et de...
T'as des on va dire que c'était un premier repère.
Voilà, c'est ça, exactement.
Sur certains points.
Heureusement, nous ne sommes pas que la somme de notre éducation.
Dieu merci.
Et on peut s'en affranchir parfois. T'as l'air d'avoir, justement, je trouve, moi, une certaine confiance en toi quand même. Tu vois, même dans tes engagements, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas depuis toujours? Et comment tu cultives ça?
Au niveau de la confiance en soi, c'est compliqué. Je pense que j'ai confiance en moi sur plein de choses. Sur mes projets, par exemple, en fait, quand je crois en quelque chose, je suis très positive, très optimiste, etc. Donc, je crois en moi, en ce que je peux devenir, en ce que je peux faire. Par exemple, j'ai pas eu de mal à me dire que la création de MeToo Animation, ça allait être compliqué parce que c'est un sujet qui était... assez tabou, dont on parlait pas, et c'était un peu tout cassé de l'intérieur. Mais j'avais grave confiance en moi par rapport à ça, en tout cas. Après, je pense que c'est un truc qui se cultive. Et moi, c'est passé par beaucoup de déconstruction. J'ai passé vraiment énormément de temps à m'affranchir de ce qu'on disait tout à l'heure, tout ce qui est les traumas d'enfance, etc. Où là, par contre, j'ai pas mal perdu confiance en moi. Mais c'est plutôt dans mes relations, dans ma vision de moi, mais pas par rapport aux études et pas par rapport au côté professionnel. Plutôt dans les relations. où je vais me dire, t'es un peu qu'une petite merde, tu vois. Mais ça, c'est passé avec le temps et ça venait de l'enfance et j'ai mis du temps, énormément de temps et énormément d'investissement à tout déconstruire et à parler, en fait, à, je sais pas si je suis la seule, vous me direz, à faire ça, mais à parler à l'enfant, genre, qui est dans moi, je sais pas si ça s'explique, mais vraiment
non,
à parler à la petite Anissa et
pas.
De construire, mais ok, mais pourquoi t'es comme ça et pourquoi t'as évolué comme ça et pourquoi t'as pas confiance
en toi.
Parce
que l'enfant en nous, en fait, il ressurgit à plein de moments et dans plein de situations. Et alors, ça dépend de ce qu'on a vécu forcément, mais on peut avoir... Enfin, en tout cas, quand il y a des traumas, on peut avoir ce qu'on appelle des triggers. Hein, c'est-à-dire que l'enfant en nous ressurgit notamment dans ces moments-là. Et ça va se manifester notamment par le fait de récupérer des comportements anciens et des façons de faire qu'on avait quand on était petit.
Oui,
bah
moi,
qui
je le vois dans
des,
certaines situations, je sais que j'ai l'impression d'avoir 10 ans. Genre, il y a des moments, il y a des choses qui arrivent, je me dis, waouh, là, je vis le truc comme si vraiment, à l'époque où j'avais 10 ans, quoi, parce que par rapport à ça, je suis restée bloquée à cet âge-là.
Émotionnellement, ouais, des fois, t'as des réponses émotionnelles où tu sais, c'est hyper. Ça arrive comme ça, tu vois, c'est soudain et t'as l'impression que ça vient de toi, mais que tu l'as pas mentalisé avant que ça sorte, tu vois, c'est un truc parfois hyper impulsif. Et tu sais, des fois, tu dis, j'ai l'impression que ça m'appartient pas. En fait, c'est souvent, enfin, ça peut être aussi une partie de toi ou une situation qui fait que ça te rappelle des moments qui te mettent dans des. Ouais, dans une certaine forme de fragilité, entre guillemets. Mais je pense que ça, oui, comme tu dis, ça se travaille. Et puis même en termes de gestion émotionnelle, etc., avec le temps, quand tu te rends compte que certaines situations t'amènent à des pensées et des émotions un peu, tu vois, envahissantes et tout. Comment est-ce que tu arrives à prendre du recul? Alors, toi, c'était dans les relations, mais je pense que ça peut être sur plein de.
En vrai, c'est souvent lié de toute façon aux relations, on va pas se mentir.
Enfin, ouais, en général.
C'est, généralement, il y a souffrance parce que dans le rapport à l'autre, il y a un truc qui se fait pas ou qui se fait mal ou qui se fait difficilement. Bref.
Oui,
du coup,
c'est ça. Puis de la manière dont c'est construit, si on a eu assez d'amour de nos parents, si on a eu plus de, je sais pas, de sa mère que de son père, il y a toute une construction et
t'as
de raison.
Si,
tu vois.
Ça part de l'attachement, dans tous les cas. La base de l'attachement, si on a eu un attachement sécure et sécurisant, on va pas du tout avoir le même rapport aux autres que si on a eu un attachement un peu compliqué, un peu insécure.
Bien sûr. Ça se retrouve après,
ça, c'est
tu compenses d'une certaine façon ou d'une autre. Bon, c'est clair, mais c'est vrai que tu vois, souvent, je pense même sur les réseaux et tout, surtout quand on est engagé et tout, on peut avoir on peut donner cette image de quelqu'un d'hyper affirmé, d'hyper avec beaucoup de confiance et tout. Et ça peut être le cas pour plein de sujets, mais c'est ok de dire qu'on n'est pas forcément en confiance et affirmé sur tout.
C'est clair. Moi, c'est ce que je répète souvent parce que du coup, j'ai beaucoup de jeunes qui me suivent et c'est tout le temps les mêmes questions qui reviennent. Mais comment tu fais pour avoir autant confiance en toi? Et je leur dis, mais stop les gars, je suis en être humain comme les autres. Et il y a plein de moments où j'ai pas du tout confiance en moi. Et ne serait-ce que, par exemple, physiquement et tout, mais moi, j'en parle que là depuis très peu sur les réseaux parce que je pense que ça peut être important. Mais moi, jusqu'à, je pense, là, il y a encore quelques mois, j'avais pas du tout confiance en moi physiquement. Mais vraiment. Et la seule chose, je pense, que j'avais vraiment confiance en moi, c'était au niveau des études parce que j'ai toujours été première de la classe, hyper investie, hyper sûre de moi à ce niveau-là. Par exemple, je sais que je suis hyper sociable et quand je vais vers les gens, j'y vais très facilement, que ce soit en soirée, peu importe. Tu peux me laisser dans une grotte, je vais devenir amie avec le petit caillou qui traîne, vraiment. Et les gens se disent « Ouais, Manissa, t'as hyper confiance en toi pour aller autant vers les autres. » Et ce que j'ai toujours répondu, mais depuis que je suis au collège, lycée, c'est que j'ai confiance en moi dans ma personnalité. Genre, j'ai hyper confiance en ma personnalité. Je sais qu'en ouvrant la bouche et tout, je peux faire un tas de choses. Mais après, pendant longtemps, le rapport que moi j'avais moi avec mon corps, par exemple, jamais de la vie, je vais aller danser. Voilà, c'est un exemple con. Mais aller danser comme ça devant des gens, le rapport que t'as avec toi, ton corps, et tu vois, et le fait de même de bouger, de s'articuler et tout, genre ça, j'ai beaucoup moins confiance.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais t'étais valorisée dans tes études, enfin, c'était un truc même, tu vois, par justement ton environnement familial et tout. Est-ce que c'est un truc dans lequel t'as eu de la reconnaissance
Ouais, quand même. Moi, mes parents, ils ont été, enfin, si on prend la base, quand même, c'est les parents qui souvent sont derrière toi, etc. Moi, mes parents, ils ont toujours été derrière moi par rapport aux études. Ils m'ont toujours valorisée. Ils m'ont toujours dit que j'allais faire des grandes, grandes, grandes études, que j'allais devenir quelqu'un d'incroyable et tout. Donc moi, dès la primaire. Je me voyais déjà faire l'ENA, faire des grandes écoles, faire.
Ça t'a apporté de la reconnaissance en fait.
Ouais. Ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi.
Ouais.
Où je savais où j'allais, je savais ce dont j'étais capable. Alors que j'en ai même pas encore conscience, j'avais encore rien fait, tu vois. J'avais rien capitalisé pour me dire, ah, j'ai réussi ça. Non, mais je savais que.
Tu visualisais le truc.
Je me projetais, quoi.
Mais tu vois, tu parlais de fait de danser, mais du coup, ça touche encore au corps, etc. Est-ce que c'est parce que ça a toujours été comme ça et que c'est des situations sociales spécifiques qui te mettent mal à l'aise? Ou est-ce qu'il y a une situation qui, à un moment donné, t'as pas créé aussi cette peur de danser? Est-ce que c'est spécifique à la danse ou est-ce que t'as peur dans plein de situations sociales? Parce qu'à la fois, tu me dis que t'es hyper avenante.
Là, c'est spécifique à la danse parce qu'il y a eu un truc, et c'est l'exemple qui m'est venu en tête. Mais après, il y a plein de moments où je vais pas. Je sais pas, par exemple, j'ai travaillé dessus, hein, mais il y a quelques années, jamais de la vie, par exemple, je serais allée draguer quelqu'un ouvertement. Rien que ça, tu vois. Parce que je me dis, mais pas du tout. Enfin, genre, regarde-toi, tu vas pas aller draguer quelqu'un. Enfin, non, la personne ne va pas être réceptive. Hein.
C'est tout ce qui est lié au corps, à l'apparence.
Enfin, ouais, ouais, c'est ça, moi, pendant longtemps. Mais après, je pense que c'est la société, c'est, tu vois.
En tant que femme,
bah, moi, ouais, ça,
rien à voir avec mes parents. Tu vois, t'sais, pour tes parents, t'es toujours la plus belle, le plus beau, le plus.
Ouais, mais il n'y a pas besoin des parents. Hein. Je pense que rien que. Moi, je regarde. Enfin, rien que les dessins animés. C'est bête, hein, mais moi, un fils de 4 ans, genre, des fois, les dessins animés, moi, je suis obligée de dire stop, parce qu'il y a des trucs vraiment rien que sur le rapport au corps et tout, et même de sexisme et tout,
et bien sûr.
De conditionnement, mais sur le physique. Mais c'est
puis
c'est
les petites filles très jeunes, très, très, très jeunes, bien plus jeunes que ce que j'aurais pu penser. Ouais. J'ai changé d'avis depuis que je suis maman, sont très vite ramenées à leur apparence et à leur.
Ah, mais oui, puis moi, quand j'étais petite, corps, en plus, j'étais pas du tout dans le cliché de. La petite fille rose, etc. Pas du tout. J'étais le cliché du garçon manqué. D'ailleurs, je déteste cette expression. Et du coup, je pense qu'il y a un truc aussi qui doit jouer là-dedans. Où, moi, j'étais toujours avec les garçons, toujours fourrir en jogging, machin et tout. Je me sens que ma mère, elle m'habillait pas forcément en mode très, très fille, mais elle m'habillait comme... Enfin, c'était pas non plus, vas-y, tout le temps en jogging, t'inquiète, machin. Et je prenais des... si ma mère écoute ça un jour, je prenais des affaires dans mon cartable quand j'avais 6-7 ans et je me changeais aux toilettes de l'école. Hein. J'arrivais à 8h. 8h10, j'étais dans les toilettes, je me changeais, je me remettais avec ma tenue, la Décathlon, gros jogging, mon t-shirt orange fluo, là. Quechua ou je sais plus quoi, et je retournais en cours. Et après, je me changeais.
Et t'avais quel âge, tu dis ?
J'avais 7-8 ans, même pas.
Ah ouais,
dès CP, CE1.
Ouais, mais tu vois, t'étais vachement affirmée déjà sur ce que tu
voulais. Ouais, mais d'un côté, j'étais pas à l'aise, tu vois, avec le côté féminin du truc, tu
vois. Ouais, mais tu peux être affirmée. Enfin...
Ouais, j'étais surtout très têtue, tu vois, tête de mule. Je pense que c'est ça qui
Oui, mais t'es affirmée dans ce que tu veux et pas dans ce qu'on voulait pour toi, en fait. C'est,
oui,
c'est
oui,
juste
c'est
après,
clair.
Peut-être que tu le projetais pas de cette façon-là, parce que si 7 ans ou 7-8 ans, on n'a pas, tu vois, ce raisonnement. Mais juste, à un moment donné, c'était pas OK pour toi d'être toute la journée dans un univers social, parce que je veux dire, l'école, t'es en sociabilisation permanente, etc.
Oui,
et tu te sentais peut-être pas à l'aise, tu vois. Et
même au niveau des jeux, au niveau de l'organisation de la cour de l'école. Ouais. Enfin, moi, j'étais pas du tout là, par terre, en train de jouer au Barbie ou je sais pas quoi, comme on peut voir, ou au Pet Shop, etc. Pas du tout, j'étais dans la cage de foot.
Ouais.
Rien à voir, tu vois.
Ouais, non, mais et c'est
okay. Et en même temps,
c'est
je pense que
aussi.
Si on laissait faire les petites filles,
je pense qu'elles
seraient pas toutes forcément en train de jouer. Certaines, oui, mais comme certains garçons le feraient aussi.
Ouais. Oui, c'est clair.
Et je pense qu'il y en a beaucoup plus qui oseraient. Mais bon, le sport, c'est vraiment le premier domaine où
discriminant,
où il y a vraiment du sexisme.
Un garçon qui veut commencer
la danse.
Mais ça
commence très jeune.
Oui,
mais attends, mais même à l'école, en sport, on te fait faire des équipes. Vous vous souvenez pas de ça? Tu genre, ils désignaient deux personnes.
Et
genre, tu devais choisir.
Et le plus nul, là, qui reste à la fin.
Et les filles n'étaient. Enfin, quand c'était les garçons, les filles n'étaient jamais choisies. Et en fait,
filles.
Et la personne qui restait à la fin, c'était humiliant comme façon de faire. Enfin, quand tu réfléchis, tu es dans un groupe, tu es sélectionné sur quels critères? Aucun. Enfin, je veux dire, à part les affinités et encore.
Bah, il y avait, on va pas se mentir, le sexe, donc le fait que tu sois fille,
une fille ou un garçon,
et le poids.
Et le poids, bien sûr.
Ouais. Le poids.
Moi, je me sens que toujours la dernière personne qui restait, c'était un pote à moi, parce qu'il était plus fort que les autres. Hein.
Mais c'est...
genre le petit gros, on le laisse, il va pas courir. Non, mais
c'est horrible. La primaire, c'est dans un truc de... Allez, on va bien changer.
La société aussi, conditionne les enfants et donc les adultes de demain. Ouais.
Mais ça, moi, je le vois de ouf parce que tu vois, Gaspard, c'est sa deuxième rentrée à l'école. Il est encore tout petit et il est dans une école, une petite école qu'on a soigneusement choisie et tout. Mais après, tu peux pas t'empêcher. Il y a d'autres enfants qui ont d'autres éducations, etc. Et le premier jour où il m'a dit, il nous a dit, maman, mais non, toi, tu peux pas faire du rugby, t'es une fille. Oh, mon Dieu. Et là, ton monde s'écroule. Enfin, je vais pas te mentir.
Ah ouais, c'est horrible.
Toi, t'as passé genre 4 heures à l'école.
T'éduques ton enfant et tu l'amènes à l'école. Il y a quelqu'un qui casse tout, soit la maîtresse ou un autre copain ou quoi.
Mais là, c'était un copain, tu vois, un truc genre ah ouais, non, mais les filles sont pas assez fortes pour jouer avec nous, tout. Et c'est terrible, mais vraiment la sensation. Alors que tu vois, mon mari, il était père au foyer pendant 3 ans avec lui, sa mère qui travaille, enfin tous les trucs classiques, on va dire, étaient pas comme ça chez nous. Et en fait, ça peut aller très très vite parce que t'as l'influence du groupe et tout. Et après, tu reprends et tu vois que dans sa tête, c'est aussi influençable dans l'autre sens. Et heureusement, tu vois, c'est pas genre ça y est, il y a un copain qui m'a dit ça, mais tu vois aussi que. Même si tu mets toute ta bonne volonté, tu vois, en tant que. Ça revient très vite.
Bah oui, bien sûr.
C'est un truc de fou.
Moi, je suis là en train de lui dire, pas tous les jours, parce que ce serait vraiment mentir de dire que je fais ça tous les jours, mais très souvent en train de lui dire, tu feras ce que tu veux, tu pourras être qui tu veux, tu pourras aimer qui tu veux.
Mais ouais, mais c'est
faire
important.
Ce que tu as envie de faire et tu seras capable de le faire. Parce que, en fait, dans la société, on te renvoie le contraire quand t'es une femme, enfin, concrètement.
C'est clair. C'est clair. Non, c'est clair. Et donc, toi, t'es très engagée, on le sait, pour libérer la parole autour de plein de sujets. Notamment, je t'ai vu parler du plaisir féminin. Mmh. T'es engagée auprès de la communauté LGBT et tout ça. Et c'est vrai que je me demandais à quel moment est-ce que l'engagement pour toi. Il a été important, le fait de porter ta voix. Alors, tu étais en études de droit, est-ce que ça a un lien ou pas? Tu vois, le fait de vouloir, je sais pas, défendre une cause ou pas. Ouais. Comment est-ce que c'est venu dans ta vie?
Alors, moi, c'est venu, en fait, ça a toujours été là. Parce que mes parents se sont rencontrés en manifestation. Ma famille est assez engagée, que ce soit mon grand-père quand il était encore là ou mes parents, tout simplement. Ma mère, c'est vraiment le cliché de la militante qui passait week-end en manifestation. Genre vraiment, tous les week-ends. Ce n'est pas un mensonge, tous les week-ends. Elle n'est pas là. Parce qu'elle est en manif, tout le temps. Elle est tout le temps en manif. Même
donc, il y avait une bonne
soir,
fibre
des...
à la maison de militantisme.
Ouais,
okay.
Ouais, qui peut être très, très vite relou quand t'as 7-8 ans et que ouais. T'en as absolument rien à faire de la politique. Sauf que ça tourne 24 sur 24 dès 7h du matin à la radio, c'est insupportable. Mais j'en suis très contente maintenant et j'en suis très fière. Je suis très, très fière de ma mère. Mais du coup, j'ai vraiment grandi dans ce milieu-là. Enfin, quand j'étais petite, j'allais tout le temps en manif. J'ai des photos. J'avais quoi, 5-6 ans. J'étais sur les gros camions de manif et tout. Donc, ça a toujours été dans ma vie. Et puis, ma mère aussi a toujours été un exemple de femme assez libérée, etc. Dans le sens où on est d'origine arabe, enfin algérienne. Ma mère a aussi grandi du coup avec tout ce qui est la culture musulmane. Enfin, c'est pas une culture, c'est une religion, mais il y a une culture qui s'en accompagne. Et pourtant, elle est pas du tout restée dans ce cadre-là. Elle s'est émancipée, mais parce que là, on avait le droit, quoi, et que chacun fait ce qu'il veut, et que notre famille était tout à fait OK avec ça, parce que c'est une famille déjà très ouverte d'esprit. Et du coup, même petite, en fait, j'ai grandi dans un milieu où il y a quand même une forte communauté maghrébine, et en fait, Et même mes copines, elles me disaient, mais ta maman, c'est pas une maman arabe comme les autres. Et maintenant, on en rigole parce que c'était vrai à l'époque. Et du coup, donc déjà, ça m'a un peu cassé des codes qu'on pouvait avoir. Et puis, je sais pas, en grandissant, pour autant, ma mère m'a jamais, comment dire, influencée. Par exemple, comme toi, tu me dis que parfois, tu lui expliques, tu seras qui tu veux, tu aimeras qui tu veux, ce que je trouve très bien. Ma mère l'a jamais fait. Ma mère est très, très engagée au niveau politique, syndicat, etc. Mais pas du tout.
Oui, mais elle l'a incarné.
Ouais, elle l'a incarné. Mais enfin, tu vois, ne serait-ce que pour le fait d'aimer les femmes ou quoi. Elle m'a jamais dit, tu seras libre d'aimer les hommes ou les femmes. Tu fais ce que tu veux. Pas du tout. Et c'est moi qui...
Est-ce que c'était pas plus tabou aussi à l'époque?
Je pense pas que c'était tabou. Je pense qu'elle s'en foutait, en fait. Mais je pense qu'elle s'en fout tellement que du coup, elle l'a même pas mentionné. Tu vois.
Ouais,
que bon, tu fais ta vie. Et puis voilà. Et du coup, je sais pas, je pense qu'il y a 60% d'influence de où j'ai grandi dans ce milieu-là. Et 40% où c'est juste ma force de caractère, je pense, où j'ai toujours été très... Par exemple, je sais que les profs, et c'est une réalité, il y a beaucoup de profs qui ne supportent pas les enfants qui répondent, etc. Ouais. Mais parce qu'il y a beaucoup de profs qui ne supportent pas l'insolence. Ça, je peux comprendre que ce soit embêtant, l'insolence. Mais qui ne supportent pas un enfant qui donne son avis. Alors qu'un enfant a un avis.
Un esprit critique.
Des 2-3 ans, voilà. Mais moi, j'ai toujours été l'enfant qui a des très bonnes notes, mais qui n'hésite pas à lever, à gueuler quand ça ne va pas, à donner son avis... Donc déjà, très affirmé, je pense que l'engagement est venu de ces deux côtés-là. Et aussi que je suis très, très, très... je suis très sensible. Maintenant, je l'assume et je suis très contente. Et j'en suis fière, carrément, parce que je pense que je ne verrais pas du tout le monde de la même manière si je n'étais pas aussi sensible à tout ce qui m'entoure. Et du coup, je suis très sensible à tout ce qui est inégalité, discrimination, mais depuis petite.
Ce qui est injustice, de façon...
Ah ouais, générale, ça m'a toujours énormément touchée. Enfin, quand j'étais... j'étais en primaire collège, j'étais la seule en fait qui voyait ce genre de choses. Quand il y avait par exemple, je sais pas moi, toutes les discriminations là envers les gros et les grosses, quand on était en primaire, ouais, t'es gros machin, mais moi ça me paraissait fou. Je disais, mais laissez-les tranquilles, etc. Et je me souviens au collège, j'avais un amoureux, et j'avais rompu genre notre couple au collège. Parce qu'il était grossophobe. Je lui avais dit. Et c'était une vraie raison. Et je lui avais dit.
Mais donc, t'incarnais déjà vachement des valeurs fortes.
Je veux plus être avec toi et tout parce que tu te moques tout le temps des gros, tu détestes les gros. Enfin, je peux pas. Et mes potes étaient mordus parce qu'ils disaient, mais tu fais chier pour tout. Parce que moi, ça me semblait être des trucs importants. Et heureusement, du coup, je suis contente. Mais donc, j'ai toujours été très sensible à tout ça. Pareil pour la communauté LGBT, sans même savoir que j'aimais les filles à ce moment-là. Quand j'étais au collège, je défendais la communauté LGBT comme si je défendais ma mère. Hein. C'était vraiment, ils font ce qu'ils veulent, nanana. Bon, après, je pense qu'il y avait quand même un énorme déni où, tu vois, au final, je me défendais un peu moi-même. Mais j'ai toujours été très sensible à tout ça. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dirigée vers des études de droit.
Ouais, ça fait partie de ta vie. Et t'as arrêté les études de droit parce que la création de contenu est venue entre-temps ou pas du tout, rien à voir?
Non, pas du tout. J'aurais peut-être pu, mais en tout cas, c'est pas ça qui m'a fait arrêter le droit. Donc moi, j'ai arrêté au mois de février, 2022. Et j'étais sur les réseaux depuis mars 2021.
Ah oui.
Ouais. J'ai commencé les réseaux en mars 2021 et du coup, non, j'ai arrêté parce que j'allais pas bien du tout. Je sortais d'une grosse dépression et que le seul truc qui me retenait encore dans tout ça et qui me mettait mal à un point pas possible, c'était la pression de la fac, etc.
Mmh. Ouais, Donc, c'est très, très dur les études de droit. Enfin, moi, pour avoir eu mon mari qui était en médecine, alors autre...
Ah oui, bon, bah ouais. Non, mais c'est pareil, ouais.
Ça te brise. Ça te brise. Moi, je vois aujourd'hui, il n'a pas continué.
Les études supérieures, c'est hyper intense, hein, de toute façon.
De toute façon, dans tous les cas, ce qui est très dur, c'est de continuer des études alors que tu ne vas pas bien.
Exactement.
Enfin, comme beaucoup de domaines, hein, peu importe ce que tu fais, que ce soit un sport ou quoi, tant que tu ne vas pas bien,
si il y a eu une dépression...
C'est ça.
Entre la perte de sens, la perte de plaisir, la perte de motivation...
Ah oui, c'était un tout et je me suis dit, waouh, là, de toute façon, t'es obligé de t'écouter parce que dans tous les cas, je ne pouvais pas continuer. Donc, je ne regrette même pas. Je le vis très mal. Je me dis, waouh, tout le monde passe en Master 2 là et moi, je n'ai pas terminé. Mais je ne pouvais pas. Donc, je préfère m'être écoutée et avoir fait passer ma santé avant que mourir.
Ah oui, non mais...
Et puis c'est peut-être un moment de ta vie, enfin, tu vois, on ne sait pas de quoi est fait demain. Donc,
ah bah c'est ça, enfin, là moi il y a quoi, 6-7 mois quand j'arrête la fac de droit, quand t'es en fac de droit on te met en tête, en tout cas ces grandes études là qu'on incite les jeunes à faire, le droit, la médecine, les prépas, etc. C'est une fois que tu vas arrêter, si t'abandonnes, mais tu n'es rien. Enfin, moi j'avais l'idée que si je n'avais pas de master ou si j'arrêtais mes études de droit... Mais j'allais être personne dans la société.
Oui, comme si ta valeur était corrélée à ton niveau.
Ah oui, et c'est vraiment ce qu'on t'apprend. Enfin, moi, en tout cas, en droit, c'est vraiment ça qu'on m'a répété. Et au final, il s'est passé l'inverse, quoi. Complètement l'inverse. Enfin, j'ai des projets. Je suis devenue encore plus la personne que je voulais être. Et là, je me retrouve là et tu vois, c'est génial. Donc,
tu vois, j'ai fait une année de droit, moi, avant de partir en psycho. Je me suis trompée de voix, hein. Je pense un peu de base. Mais je suis allée en droit avec un peu les mêmes... la même idée de besoin de justice, etc., dans plein de domaines. Et j'ai trouvé le droit très injuste. Alors, ce n'est pas que ça qui m'a fait arrêter le droit, il y en a plein d'autres de paramètres, mais qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Injuste par rapport à quoi ?
J'ai trouvé le droit injuste, tu vois. J'ai trouvé
le
droit à la justice, la justice qui incarnait la justice.
Ah oui, qu'en gros, la justice est mal foutue.
Oui, en gros, on peut dire comme ça, ouais.
Oui, c'est ça, oui, non, c'est totalement...
Je trouvais ça hyper injuste, et genre, du coup, ça, c'était plus, tu vois,
en accord avec
mes valeurs.
Je comprends totalement, après, je pense que ça dépend...
Après, j'ai fait qu'un an.
Quelle raison... Non, mais je pense que ça aurait été le même constat au bout de 3-4 ans. Mais je pense que ça dépend pour quelle raison tu commences la fac de droit. Si tu commences la fac de droit en ayant conscience de tout ça, ce dont moi j'avais conscience, par exemple, moi mon métier de rêve, mis à part être présidente de la République que je voulais faire depuis que j'étais petite, mon métier vraiment de cœur, et ça l'est toujours et ça l'a été pendant mes, je pense, de mes 10 ans à maintenant, c'est rentrer dans la police, tu vois. Ouais, vraiment mon rêve. Je pense que je peux lâcher une larme quand je rentre dans un commissariat de police parce que je sais que je deviendrai jamais flic, parce que je me suis fait une raison, etc. Mais du coup, j'avais conscience, tu vois. Je suis rentrée en fac de droit parce que je voulais devenir commissaire de police et au pire, passer l'ENM pour être magistrate. Mais je voulais absolument être commissaire de police, mais j'avais conscience de toutes ces violences et toutes ces inégalités et tout ce dysfonctionnement dans...
Oui, je pense que dans la police, tu vois. Pas 18, j'avais pas ce niveau de conscience.
Tu vois, je pense que quand t'as conscience de tout ça et même que la justice est mal foutu de part et d'autre, tu te dis j'y rentre pour changer les choses et du coup c'est dingue, tu constates tous les jours t'es fatigué mais tu te dis c'est pas grave, je vais quand même ajouter ma pierre à l'édifice
heureusement qu'il y a encore des personnes comme ça parce que sinon
tu vois l'état du
sinon on ferait plus rien hein,
même de l'éducation, même de la santé, enfin tu vois ce que je veux dire, ces métiers là où en fait à un moment donné si t'as pas la vocation, enfin c'est tellement prenant, ça engage tellement ta santé mentale.
C'est des métiers de passion. Enfin,
oui, c'est des métiers de passion, vraiment, clairement.
Parce que tu peux t'y brûler pas mal d'ailes.
C'est ça.
C'est une question à laquelle je pense que j'ai déjà la réponse, mais quand même, ça ouvrira le sujet. Est-ce que, selon toi, nous sommes dans une société patriarcale ? Et est-ce que ta mission à travers les réseaux, c'est aussi de faire avancer les choses à ce niveau-là ?
Non, pas du tout, je pense pas.
D'accord,
je pense qu'on a fait non, moi je vais y aller. Oui, clairement. Et la réponse est évidente, mais est-ce que c'est ma mission aussi à travers les réseaux de casser un peu tous ces clichés-là, que ce soit sexisme, machisme, tout ? Oui, clairement. Clairement, parce qu'il y a plein de choses. Moi, en fait, j'essaye d'être à travers mes réseaux l'influenceuse, ou en tout cas la personne la jeune femme que moi j'aurais aimé avoir quand j'étais petite.
Tout grande simplement. Sœur un peu.
Ouais, voilà, ouais. Exactement. Ouais, la grande sœur, c'est un peu ce que je suis en fait sur les réseaux et même à travers le fait d'être animatrice et que tout le monde le sache. Enfin, c'est vraiment, même en colo, je le vois, hein, c'est vraiment. Il m'a dit, ouais, maman Anissa, machin, parce que moi, même si j'ai 22 ans, je me comporte vraiment comme une daronne, j'aime trop les enfants et enfin, mon rêve, c'est d'être maman et tout. Du coup, moi, que t'es 5, 15 ou 20 ans, pour moi, c'est mes petits cœurs, tu vois, genre en colo. Voilà, et c'est absolument ce que je veux faire sur les réseaux, que ce soit par rapport au tout ce que le féminisme peut englober à travers en fait tous ces clichés dans lesquels on est enfermé depuis petite, tu vois. Tout ça, que ce soit sur le corps, genre tous les clichés sur le corps, à quoi doit ressembler une femme, tout.
C'est en fait, quoi
tout,
la féminité.
Ouais,
quoi,
voilà, juste, mais rien que ça, tu vois. Sûr. Moi, j'ai tellement pas grandi avec ça en tête, j'étais tellement en mode garçon, manqué, là, comme ils répétaient tous. Et au final, en fait, je pense que c'est juste l'évolution en plus de ma personne qui a fait que c'est un peu le stéréotype de tout ce qu'on essaye de pas être quand on est petite et qu'on est une jeune fille et qu'on doit être full Barbie, rose. Non, moi, pas du tout. J'étais full garçon manqué. Puis après, j'ai grandi. Je me suis rendu compte qu'en plus, j'étais certainement largement plus attirée par les femmes que par les hommes. Enfin, il y a vraiment, tu vois, le cliché de... ça fait un peu, tu sais, la mauvaise image que certains mecs ont de la féministe lesbienne complètement folle, alors que qui laisse pousser ses poils, enfin, tu vois. Alors que j'ai vraiment pas choisi de cocher toutes les... Tu vois, juste, je suis moi et voilà, ça me semble tellement normal, en fait. Surtout qu'il n'y a rien de bizarre là-dedans, en fait.
Tu existes à travers ça et que, en fait, a priori, ça ne devrait pas être des critères.
Ça pose un problème, ça devrait pas être des critères qui puissent être énervants ou poser problème. Puis surtout qu'une femme, elle est plurielle, quoi. On n'est pas qu'une seule chose.
Mais complètement. Et à partir du moment où t'es OK avec ça, et même si tu vois, et tu peux être une femme féministe et adorer le rose, porter des talons hauts.
Exactement.
Et enfin, je veux dire, c'est justement la liberté d'être qui tu veux être sans que personne n'interfère dans ton choix. Et
puis c'est toléré, oui, que du coup, les autres puissent être différents de toi, quoi.
Oui, c'est ça.
Bah,
complètement.
Bah oui, voilà, exactement. Et moi, c'est ce que je prends, hein, par exemple. Enfin, je sais que le truc qui va faire plus polémique, moi, quand j'en parle, c'est au niveau de la pilosité et tout. Moi, quand je fais du contenu par rapport à ça et que j'encourage les jeunes filles, les jeunes garçons et tout à assumer leur corps de la manière dont ils ont envie de l'assumer, en fait, je prône pas du tout, par exemple, l'épilation, c'est pas bien, les meufs qui s'épilent, etc., c'est une aversion. Pas du tout, hein. Juste, moi, j'ai décidé de plus le faire parce que ça ne m'intéresse pas et que ça me fait chier et que pour plein de raisons, quoi. Et que je suis à l'aise avec mon corps, avec ou sans poils. Et je ne vais pas dire aux jeunes filles, non, mais ne vous épilez pas, etc.
Ouais,
juste, si tu t'épiles, c'est que tu le fais pour toi.
D'accord.
Et que tu sois sûre que tu le fais pour toi. Et même s'il faut déconstruire un peu, réfléchir, putain, mais pourquoi je le fais et tout.
Oui, tu remets le sens de l'action tu au vois, centre c'est ça. Du truc, quoi.
Voilà, exactement, tu vois. Parce que t'en as qui vont se dire, mais non, mais je le fais pas pour un mec, de toute façon, j'ai pas de mec et tout, je le fais vraiment pour moi. Tu dis, ok, mais pour toi, par rapport à quoi? Parce que t'aimes pas ça, t'as la phobie des poils, je trouve ça sale. Ou parce que la vision que t'as de toi-même, mais qui provient de ce qu'on t'a toujours appris, en fait, depuis que t'es petite, où une femme, elle est parfaite, sans poils, sans rien, sans rides, sans. Tu vois?
C'est ça, espèce de truc lisse.
Ouais. Non, mais. Lisse et douce. Mais une femme, elle est pas lisse, elle est pas douce. Un truc pas forcément, tu vois.
Non, mais.
Moi, ça me fait rire. Des fois, je lis des trucs, j'entends des trucs, je me dis, mais. Comme hier, non, mais fun fact, c'est pas fun, mais j'étais dans le métro, et juste fact, tu vois. J'étais dans le métro avec ma pote, et y a un mec à ma gauche, là, dans les carrés, tu sais, qui me fixe. Et il arrête pas, tu vois. Et moi, franchement, genre, je suis pas chiante. Hein. Genre, je suis tellement fatiguée que je me dis, vas-y, au pire, il a pas été éduqué, c'est pas par rapport à ça.
Pas mon dos.
Je laisse couler, tu vois. Voilà, c'est ça, je vais pas commencer à éduquer toute la planète Terre. Donc, je dis rien, sauf qu'au bout d'un moment, quand je ressens vraiment que je suis mal à l'aise et que je sens le regard sur. Je m'en fous hein, que tu me regardes, hein, mais quand je sens trop le regard sur moi, évidemment, c'est chiant parce que je
vois
que j'arrive pas à parler, c'est j'ai l'impression que t'es collé à moi alors que t'es même pas collé à moi. Et donc, au bout de, je sais pas, 10 minutes ou vraiment une physique, j'ai dit, excusez-moi, mais gentiment, j'ai dit, excusez-moi, est-ce que vous pouvez arrêter de me fixer? Et il me regarde comme ça, non, mais je regarde pas. J'ai dit, si. Il me dit, non, mais après, c'est pas ma faute si vous êtes là. Et j'ai dit, non, mais déjà, je suis même pas en face de vous, je suis en diagonale. Et en plus, ça, c'est pas du tout un argument qui se tient.
Excusez-moi d'exister, en fait.
Non, mais voilà. Et du coup, je lui dis, moi, vous êtes là, ma gauche, je vous fixe pas. Il y a le métro, il y a la fenêtre, il y a Paris, là, qui défile. Enfin, il y a d'autres choses à regarder que moi, depuis tout à l'heure, que vous êtes en train de fixer. Et donc, un peu démuni, il finit par s'excuser. Donc, je vois qu'il a eu honte et que voilà, il me dit, excusez-moi. Je me dis, ok, super. Je dis, merci, il n'y a pas de souci. Je continue ma discussion avec ma pote. Et là, il me dit, et il revient, il me dit, non, mais c'est comme si. Attends, c'est vraiment le truc à ne pas dire. C'est comme si on met une très belle fleur devant vous.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bah, vous avez envie de regarder.
Oh, wow.
Et là, je le regarde. Je dis, mais ça va pas. Non, mais que, déjà, c'est quoi ce délire? Une femme,
allez,
c'est une fleur, elle est belle.
On va rendre la femme bien objet.
Non, mais voilà. Comment désir. Ça? T'as une belle fleur devant toi. Déjà, je suis pas une fleur, je suis un être humain. Et en fait, c'est hyper flippant parce que c'est le même type de réflexion que... Enfin, des mecs qui pourraient être agresseurs de leur et qui vont te dire « bah t'as un super bon gâteau devant toi, tu crois que je vais pas goûter ?» Ouais. Mais c'est dégueulasse, c'est hyper, en fait, hyper
c'est
inquiétant.
Ça, le process de
le
penser.
Le process de penser, t'as une belle fleur devant toi, tu pensais vraiment que je vais pas la regarder ? Après, il m'a dit « c'est pas ma faute si vous êtes super jolie ».
Non, ouais, mais bon, tu t'enfonces là, vas-y, bah... dégage.
Ah ouais.
Ah ouais, mais horrible. Mais en fait, c'est ce process de. Et je mais... pense que. Je sais pas si ça mais... s'étudie, j'en sais rien.
T'as vu
mais...
comment c'est énervant là, ça
c'est
horrible. Ouais,
c'est une espèce de truc de déshumanisation où en fait, tu n'es plus humain, tu es objet de désir.
Mais
voilà,
c'est dingue.
Donc, une fleur, un bout de viande, ouais. Une religieuse au chocolat, tout ce que tu veux. Et en fait, du coup, bah, ça légitime plein de choses. Parce
mais
que bien sûr. Bien sûr que tu peux baver dans la vitrine d'une boulangerie.
Bah oui.
Mais en fait,
et parce que c'est une vitrine de boulangerie, c'est pas un des êtres humains. Enfin, c'est.
Enfin, tu vois, c'est un système quoi. Le
oui.
mec, il a dû probablement grandir toute sa vie avec l'idée que ça
qu'une femme,
comme
c'est
ça
sexy,
et que
c'est beau et qu'on a le droit
femme,
de l'admirer.
Une femme, c'est belle pour un homme
ça,
et qu'une femme doit faire ça pour un
pire.
Homme.
C'est que le mec est persuadé que c'est un compliment.
Non, mais oui,
faire.
C'est
ah
ça.
Mais oui.
C'est ce que je veux dire.
Mais c'est ce qui prouve. Mais c'est ce qui prouve.
C'est pour ça que vous êtes toujours célibataire, monsieur.
C'est ce qui prouve que... Ouais. Qu'il est matrixé par le système, tu vois ce que je veux dire?
Ah oui,
par le patriarcat
oui.
et
ouais, non,
par le truc, ce qui n'excuse rien, on est bien d'accord.
Non, mais c'est fou en fait.
Mais en fait, je pense que.
Mais le process
dit,
de penser est dingue. Mais moi, il y a des trucs comme ça, mais même un jour, je crois que c'est mon père, il n'entendra jamais ça. Mais même s'il l'entend, ce serait mieux qu'il l'entende. Mais un jour, on était en voiture, je sais pas, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, il venait me chercher au tram pour rentrer à la maison, bref. Et il me dit, il me regarde dans la voiture, puis tu sais, bah, il conduit quoi, il me regarde. Je sais pas, il faisait soleil à Montpellier, je pense. Et là, je sais pas quel âge j'avais. J'avais pas encore le permis, donc je l'ai eu tard, le permis. Je devais avoir 18 ans. Et il me regarde et il me dit « Mais dis donc, avant qu'on se voit, un truc comme ça. » Ou « Ah, tu t'es pas épilé la moustache avant qu'on se voit. » Trop bizarre. Et c'était pas en mode « Avant qu'on se voit, toi et moi. » Parce que bah, c'est mon père et qu'il y a jamais rien eu. Dieu merci. Mais c'était juste le truc de « Genre, t'es pas présentable. » Parce que t'as des poils, tu vois. Rien que ça. Et ce process de pensée, il est fou. Alors que, je veux dire, il a eu deux filles et que... Et genre, et tu sais, sur le moment, j'ai rien dit. Et des années après, ça m'a marqué de ouf. Et genre, vraiment, j'ai repris avec lui parce qu'en plus, j'ai une petite sœur 9 ans plus jeune que moi et tout. Je lui ai dit, mais là, genre, tu peux pas, c'est pas OK.
Ouais, là, c'est pas OK.
Enfin,
ouais.
Je veux dire, tu n'as pas le
mais
droit.
Mais c'est comme, j'ai un proche la dernière fois qui, pourtant, enfin, je veux dire... a priori a reçu une éducation qui est très cultivée, enfin tu vois, et on parlait justement des poils et qui me dit bah non les femmes ça a pas de poils. enfin si
c'est
bah terrible. Non mais enfin je veux dire quelqu'un tu vois qui bosse à l'hôpital qui enfin
wow.
Tu te dis
ah
non
oui,
mais attends c'est pas possible genre enfin tu
ah
peux
oui,
pas me dire
c'est...
ça.
Enfin, ah non, enfin, va au musée, regarde les tableaux des femmes.
Mais
t'inquiète,
mais du coup j'étais même interloquée.
Est-ce que tu sais?
Non, enfin tu sais que enfin tu sais qu'une femme a des poils. Enfin, tu le sais.
Non, non.
Mais bah non, mais enfin, je dis, ben, enfin, on les arrache, on les épile, tout ce que tu veux, mais du coup, on a des poils.
Ah, mais c'est moi, ça me choque, mais autant que ça me choque pas, que je pense vraiment qu'il y a des personnes qui finissent par oublier que des femmes ont des poils tellement.
Oui,
la plupart des femmes sont tout le temps épilées.
Oui.
Il y a des femmes qui. Enfin, j'ai pas de pourcentage en tête, mais il y a des femmes qui se rasent tous les jours, tout le temps. Chaque douche qui se rase.
Et puis elles sont définitives et tout. Et encore une fois, c'est totalement OK si c'est un choix, tu vois, perso.
Mais oui, bien sûr.
Mais tu vois, que ce soit rentré dans la tête de la
femme
masculine de façon à ce que. Enfin. Tu
vois, c'est ça. Le problème, c'est même pas les femmes qui finalement s'épilent aujourd'hui. Ou... Parce que même si c'est parce qu'elles sont... Parce que moi-même, tu vois, moi-même, je me rase encore les jambes, etc. Et tout, parce que bah, j'ai encore du mal à me dire que je suis plus à l'aise au niveau des aisselles, tout ça. Mais tu vois...
Ce qui est tout à fait normal.
Et voilà, j'ai encore du mal au niveau des jambes. Et je sais que c'est parce que j'ai du mal et tout ça.
Avec le regard des autres.
Mais...
Et c'est le regard des autres.
Mais...
Hein. Moi, je suis la première à faire du contenu
et tout ça.
Pour les poils, etc. Les jambes, c'est dur.
Les jambes, c'est super
dur,
tu vois. Moi, je suis à l'aise avec d'autres parties, mais en tout cas les jambes, moi c'est vraiment un truc où j'ai beaucoup de mal. Les sourcils, j'adore avoir de beaux sourcils faits, etc. Bref, mais c'est moi et je sais que c'est parce que c'est en lien, parce que j'ai été
avec
éduquée comme ça.
Oui,
donc ça en soi, ça me choque pas. Ce qui me choque plus, c'est vraiment l'homme en fait qui donne son avis par rapport au corps de la femme.
Oui,
tu
puis,
vois.
Mais ça va plus loin que ça, c'est que même les femmes ont été élevées dans cette idée-là. Enfin, moi, je sais que
mais
ma mère. qui est très déconstruit sur plein de trucs. Le truc de la moustache, là, mais tout le temps. Ouais. Et des fois, en fait, moi, je m'épilais la moustache quand j'étais, quand j'étais au collège. Ça a commencé comme ça. Ouais, t'as de la moustache. Alors que non, t'as juste un petit duvet blond qui pose pas problème. Sauf que tu finis par l'arracher et repousse noir. Là, t'as vraiment de la moustache, tu vois. Et là, c'est un cercle vicieux où au final, t'es obligé de l'épiler. Et je continuais. Puis j'ai commencé à avoir des problèmes de peau avec la dépression que j'ai faite. Et à cause du stress et tout. Et du coup, j'ai tout le temps des boutons. Et en fait, j'avais tout le temps des crises, même encore maintenant, de boutons autour de la bouche. Et donc, de là, j'ai dû arrêter tout ce qui est épilation de la moustache et tout. Parce que sinon, ça abîmait trop ma peau et ça allait être encore pire. Et du coup, j'ai laissé. Mais elle se voit pas, tu vois. Elle se voit un petit peu, mais il faut vraiment regarder. Et ouais. Puis un jour, ça faisait, je sais pas, peut-être 2 mois que j'avais rien fait. Et puis, je ne l'ai pas remarqué, quoi. Et puis, je regarde dans la glace et je dis, oh putain, on voit un peu sur les côtés et tout. Bref, ça me fait rire. Et puis, je me dis, tu sais, il y a quand même ce truc. Maintenant que je l'ai vu.
Ouais, tu focuses dessus.
Est-ce que j'enlève ou pas, tu vois. Et du coup, je vais voir ma mère. Mais tu vois, naïvement, je lui dis, ouais, ça passe. Hein. Enfin, c'est bon, on s'en fout, non? Elle me dit, ah non, mais pas du tout, c'est trop moche, un truc comme ça, ou c'est ça. Ouais. Je me dis, oh! Et là, je me sens que j'ai mal au cœur, parce que vraiment, je pensais vraiment qu'elle allait me dire, mais non, on s'en fout, quoi. Ouais. Et là, je dis, ah ouais, ok.
Mais c'est horrible.
Je suis
partie
l'épiler, tu vois.
Parce que c'est vraiment le sentiment de honte.
Ah oui, j'ai vraiment eu honte.
Tu vois, je me rappelle de ma petite cousine, enfin vraiment, voilà, je sais pas, je crois qu'on a 7 ans d'écart, un truc comme ça, où je crois que c'était les premiers moments où, tu sais, on n'était pas encore ensemble avec Loïc, c'est mon conjoint, donc voilà, je pense que c'était pas en train de se faire, mais presque, ouais. Quoi. Et devant lui, elle m'a dit, oh, t'as un peu de moustache. Oh my god. J'ai eu super honte, ouais. Tu vois. Je suis devenue rouge. Alors moi, j'ai une capacité à rougir rien que de
t'en parler. Non,
c'est possible que je sois déjà en train de rougir. Donc j'ai une capacité à rougir extrêmement forte. Vous savez que je m'entendais déjà extrêmement bien avec Loïc et que c'est quelqu'un de voilà. Enfin, je veux dire, je n'avais aucun souci à me faire vis-à-vis de lui, mais j'ai quand même eu super honte. Ouais. Et tu vois, c'est ça le truc.
C'est terrible,
c'est que t'as honte d'un truc.
D'un process naturel.
Enfin, c'est terrible quand même.
Mais justement, ça enchaîne très bien avec ma question. Est-ce que, alors tu dis qu'aujourd'hui, toi, tu penses que t'es... Alors, est-ce que tu es plus attirée par les femmes que par les hommes? Mais je crois que t'es pansexuelle, non?
C'est ça, ouais.
Est-ce que, pour toi, c'est difficile de s'engager dans une relation, justement, hétéro, quand on est soi-même dans un process de déconstruction bien engagé? C'est une question pour tout le monde. On dirait qu'on est 60. Mais en vrai, c'est une vraie question parce que...
Dans une relation hétéro?
Ouais.
Enfin, donc là, être avec un mec?
Ouais.
Et répète ta question.
T'as vu, t'as besoin de la... Est-ce que pour toi, c'est difficile de s'engager dans une relation hétéro quand on est soi-même en process de déconstruction, tu vois, bien engagé? Est-ce qu'il y a plus d'appréhension?
Ah, ok. Donc là, si j'aurais du mal à être avec un homme alors qu'à côté, je suis en train de déconstruire tous ces trucs-là, etc. Non, je pense pas. Après, pour être très honnête, moi, c'est un sujet très, très complexe. On pourrait faire un podcast là-dessus, mais je fréquente quand même que des femmes. Ce serait moins sûr de dire oui, des hommes et tout. Je fréquente que des femmes, bien que j'ai déjà aimé beaucoup d'hommes et que je puisse tomber amoureuse d'hommes. C'est pas les personnes vers qui je me tourne pour avoir des relations. Mais je sais que c'est déjà arrivé et que même dans mon imaginaire, enfin, j'aurais aucun problème, je pense. En tout cas, si j'ai des problèmes avec les mecs, c'est pas du tout par rapport à ça. Parce que je me tourne vers des gars, en général, qui sont autant déconstruits que moi.
Oui, voilà.
Et bon, après, il faut les trouver. Mais, ouais, mais en tout cas, même dans mon entourage et tout, ça va, quoi. J'ai jamais eu... Ouais, franchement, tous les garçons avec qui il y a eu des trucs assez sérieux, etc., ces dernières années, j'ai jamais eu de problème à...
Peut-être parce que t'as aussi une espèce de filtre
et de cadre
sur lequel t'as des trucs que t'es là en mode...
Après, je pense que je serais beaucoup moins à l'aise qu'avec une femme. Hein. Ne serait-ce que... Même, par exemple, je pense à la pilosité. La pilosité, enfin, je sais que le dernier garçon que j'ai vraiment aimé, etc., il était OK, grave avec les poils et tout, il s'en foutait. Enfin, s'en fout, tu vois, on en rigolait, au contraire, de toutes les remarques que tu peux te prendre quand t'es une meuf et que tu laisses pousser tes poils. Mais je pense que si on avait été amené à coucher ensemble ou quoi, j'aurais pas du tout été aussi à l'aise qu'avec une femme où t'es un peu, c'est ta meuf, mais c'est un peu ta pote. Enfin, on est entre meufs, quoi. Et du coup, on s'en fout si t'es pas épilé ou quoi, un mec. Ça, en fait, dans la tête,
c'est tellement ancré.
Ça reste un mec, tu vois.
Enfin, nous, on est quand même dans 2 relations hétérosexuelles depuis un moment. Enfin, moi, ça fait 11 ans. Et toi, ça commence à faire quelques années.
Plus de 5 ans.
Plus de 5 ans. Mais tu vois, et quand même, on est avec des mecs qui sont en gros process de déconstruction et tout, très, très engagés et tout. Et ça, pour le coup, moi, je m'aperçois avoir des comportements plus... restrictif que lui-même. Enfin, je sais pas comment te dire. Par exemple, les poils, il y a des trucs où moi, ça peut conditionner même genre mon envie. Enfin, tu vois, ma vie sexuelle et tout.
Ouais,
genre,
ouais.
Mon envie de non, c'est pas le moment parce que genre c'est pas le moment parce que je me sens pas là dans mon corps comme il faut. Alors que comme il faut, ça veut rien dire. Genre au secours, juste parce que t'es pas passé sous le rasoir, quoi. Alors que lui, il en a rien à faire, mais rien à faire. Et pourtant, Je te dis n'importe quoi. Alors, c'est pas, j'ai pas de relation sexuelle avec mes potes, mais je serais avec des potes, je te dis n'importe quoi, à la piscine, en maillot de bain, avec... j'en aurais rien.
Oui,
à
tu
faire.
T'en foutrais.
Tu sais ce que je veux dire? Alors oui, que putain, oui, ça fait 11 ans qu'on est ensemble, on a un gosse, on est mariés. Bon, ça veut rien dire, mais c'est, on est ensemble depuis nos 15 ans. Donc...
Oui, il y a un espèce de.
Voilà, il y a un truc de confiance, quoi.
Parce
voilà.
Que oui, mais parce qu'en fait, c'est.
Mais encore une fois, c'est dans la ancré, tête, hein, mais c'est
ancré,
écrit,
c'est un ancrage qui est.
C'est fou.
Je dis putain, toute la journée, on en parle, on débat dessus, on est informé et tout.
Mais
on a encore ce truc.
Mais parce que on a grandi dans ça en fait, ouais, donc t'as beau te déconstruire, mais moi hein, je suis déconstruite sur beaucoup de sujets, il y a des trucs des
mais
fois,
en fait
dis,
ce qui ne ça, change pas c'est allô l'émotion,
ouais,
c'est
ouais,
émotionnellement parlant, ouais, c'est à dire que bon au niveau des cognitifs, c'est à dire au niveau des pensées etc, on arrive à se dire autre chose, on arrive à moduler nos pensées, on arrive à, tu vois, à changer un peu le discours et à changer les scénarios etc, parce qu'on est très informé et qu'on est dans un processus de déconstruction etc, etc, mais l'émotion qui est associée au truc de base, ben c'est des émotions tellement fortes ou tellement ancrées
quand, ouais,
que
quand
ça
t'es petit en plus,
même
donc
quand tu vas contre ça, il y a quand même cette émotion là, tu vois,
la manière,
la t'as, honte,
pas ta mémoire mais t'as ton psychique quand t'es enfant, c'est un peu de la pâte à modeler en fait, t'sais. Et ah, genre oui, ça se, enfin c'est en train de se construire, tu vois, tout ce qu'on y fouille ça laisse une empreinte et
oui,
et je pense que et du coup ces empreintes, t'as l'impression qu'elles y sont plus parce que tu t'es tellement déconstruite, mais c'est toujours là quoi, et du coup tu sais ça reste un peu
ouais. Mais clairement, et puis on est une génération où là je pense que les jeunes gens qui grandissent, enfin quand j'étais
gens
c'est terrible de dire ça
les
comme ça, une daronne, mais je suis en même temps, vous me direz. Mais non, mais les très jeunes, ouais, enfants, ouais, qui grandissent aujourd'hui, je pense, auront accès déjà à ce genre de contenu.
Je pense qu'on
n'est
pas.
Exemple,
oui, ah non,
nous,
on ne
voit pas
du tout se construire de la même manière.
Attends, les gars, le guide du sexuel de Titeuf.
J'en parlais, attends, j'en parlais hier. J'en parlais hier.
C'est un truc de fou.
Moi, tu m'as marqué ce truc.
Non, mais t'as relu, là.
Violé, non.
C'est une catastrophe. Mais la banalisation de violences sexuelles et tout, mais vraiment, d'agression et tout.
Oui, 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 non, mais c'est horrible. Mais tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on est une génération quand même,
ouais,
on a vu dire, on a été baigné, trempé dans ce truc-là. Nos parents l'ont été encore plus que nous, et tu vois.
Non, complètement.
Donc, enfin, c'est.
Du chemin, quoi.
Ouais, bah, ouais. Hein. Mais c'est pour ça que ça nous prend au trip et que ça, on en parle autant.
Bien sûr. Non, mais c'est...
Et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait aussi, que là, il y a ce podcast, que moi, j'ai mon asso, que je fais tout ça sur les
bah
réseaux,
oui,
tu vois. C'est que
ouais,
les prochaines générations vont pas du tout grandir dans le même monde.
Ils
ont
été obligés de militer, là. Et aujourd'hui, on milite pour des poils. J'espère que dans quelques années, ils en rigoleront en disant, t'imagines à quel point...
Ouais,
pas, mais
grave.
C'était
moi, j'aimerais que mes enfants, tu vois,
des
ils seraient mordus en mode, putain, tu faisais ça et tout pour prouver que c'est normal et tout.
J'aimerais trop, ce serait incroyable.
Mais tu vois, comme il y en a qui ont milité pour le droit de vote ou le droit d'avoir
mais
un
oui,
compte bancaire,
mais tu vois,
enfin tu vois, et ça te paraît lunaire,
mais oui,
non, mais
exactement,
enfin tu vois,
bah, comme à certains moments ça fait flipper, tu vois, enfin là moi on parlait de Simone Veil, ouais, moi quand j'étais petite, enfin même en adolescente, ça me paraissait lunaire qu'un jour on ait pu se battre pour ouais, le droit à l'avortement, tu vois, tellement on l'a acquis, il a sauté aux États-Unis,
ouais, alors ça c'est même plus que lunaire, c'est
flippant quoi,
c'est terrible, c'est très flippant parce qu'en fait
rien n'est acquis, hein,
voilà, et le droit des enfants et des femmes sont toujours trinque en premier, là il y a quand même une loi qui est passée aux États-Unis aussi, eux ils sont en bon gros recul là en ce moment.
Oui, la fessée autorisée.
Voilà,
c'est ça,
les violences physiques sont autorisées comme châtiment dans les écoles. Voilà. Dans
nice,
l'état du Massachusetts.
Oui, c'est bien.
Enfin, c'est terrible. Donc oui, non, le militantisme, je pense, fait partie aujourd'hui de nos vies. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Justement, t'as pris la parole, toi, concernant les violences sexuelles dans le cadre de l'animation.
Mm-hmm.
T'as dénoncé justement ce qui se passait en colonie de vacances, parce que toi, t'étais toi-même animatrice et en même temps, enfant, je crois, en colonie. Moi, j'ai été grave en colonie et j'ai même témoigné sur le MeToo Animation. Donc, c'est anonyme. Donc, vous pouvez. Il y a beaucoup de témoignages, hélas. Mais du coup, je suis complètement. C'est la première fois que j'en entendais parler. Et je me suis dit, mais c'est fou parce que c'est une réalité. Moi, j'ai été beaucoup, beaucoup en colonie, tu vois. Et c'est vrai que c'est une histoire qui a été, bien sûr, c'est traumatisant parce que ça touche à tellement de choses de toi, enfant. En plus, colonie de vacances, c'est tellement associé à l'innocence, au plaisir, à la joie.
Ouais, au plaisir, au fun, c'est des colonies de vacances, quoi.
Voilà,
enfin, on le voit un peu comme le film Nos Jours Heureux.
Ouais,
et,
ouais.
Et ça se passe comme ça, mais il y a d'autres choses aussi qui arrivent, quoi.
Et toi, du coup, comment est-ce que t'es venue à prendre la parole là-dessus? Qu'est-ce qui a déclenché ton engagement?
Moi, ce qui a déclenché mon engagement par rapport à ça, c'est qu'en gros, j'ai passé le BAFA, un peu pour te situer, j'ai passé le BAFA en 2017, donc j'avais 17 ans, j'allais sur mes 18 ans. Et j'ai enchaîné directement avec des colonies de vacances l'été, du coup, 2018, ouais, c'est ça. Et du coup, je suis anime de colo depuis 4 ans maintenant. Et en fait, dès les premières colonies de vacances que j'ai faites, j'ai eu des collègues qui avaient des comportements, ce que tu vois, j'ai appelé moi dans ma tête à 17 ans, des comportements déplacés. Je me disais, mais c'est pas normal, beaucoup trop tactile, beaucoup trop proche, des jeunes filles, parce que c'était beaucoup les jeunes filles, ils échangent leurs numéros, etc. J'ai compris qu'il y avait des relations qui étaient ambiguës, donc je trouvais ça déjà très bizarre. Et puis même le directeur, hein, les directeurs qui sont très jeunes, bon, ça n'enlève rien, les directeurs qui sont très vieux et qui sont aussi très bizarres. Mmh. Et du coup, direct, je me suis dit, putain, mais c'est pas du tout l'écolo que moi j'ai fait quand j'étais plus jeune, quoi. Rien à voir. Et en fait, bref, plus le temps est passé, plus j'ai constaté de trucs qui étaient pas normaux du tout. Mais j'avais pas encore constaté vraiment d'agression sexuelle et de viol à proprement parler, quoi. Ou d'harcèlement sexuel. Juste des comportements qui étaient alertants. Où je me disais, c'est bizarre, c'est un peu précurseur de peut-être de quelque chose beaucoup plus grave. Et donc les années sont passées et en fait, j'ai fini dans une colo. Et ça a été vraiment, je pense, enfin moi je le sais, dans ma tête, c'est le début du mytho animation, c'est que j'étais dans une colo avec des collègues très 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 problématiques et qui sont des agresseurs et des violeurs. Et en fait, j'ai eu des retours de gamines que j'ai eues en colo après les colonies de vacances qui me disaient, mais il me parle par message, il m'envoie ça, il m'envoie ci. Et j'ai lu des trucs, mais horribles, horribles, horribles à lire. Carrément de l'harcèlement sexuel. Et le temps passé, je faisais remonter ça à mes collègues, j'essayais de faire des trucs, mais en fait, en interne, qui n'ont absolument pas fonctionné. Et en fait, après, je suis allée sur les réseaux sociaux. Et c'était pas du tout le but premier, donc j'ai commencé à faire des vidéos sur les réseaux, sur plein de sujets que j'aborde. Et puis, j'ai commencé à faire des vidéos de prévention, vu que je parlais de plein de trucs un peu éducatifs, j'ai commencé à faire des vidéos de prévention parce que l'écolo allait bientôt arriver, que c'était bientôt l'été et que je repensais à ça tout le temps, moi. Et du coup, j'ai commencé à faire des vidéos et puis je voyais les commentaires, puis j'ai commencé à recevoir des témoignages. Et là, c'était pas du tout des témoignages comme j'avais pu avoir après les colonies de vacances. C'était vraiment des jeunes qui avaient été victimes de violences sexuelles, comme on l'imagine, quoi. Et donc là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose de très, très, très grave. Surtout, il y a un silence, en fait, autour de ça, qui est incroyable. Et donc, de là, j'ai commencé à faire encore plus de vidéos. Et puis un jour, et ça a été le déclic, même si je me disais, il faut que je monte un truc, il faut que je fasse quelque chose. Mais j'avais très peur. Moi, j'avais très, très peur de mes anciens collègues. Et en fait, un jour, j'ai reçu, c'était quoi, une semaine avant de créer le mytho animation, j'ai reçu le témoignage d'une jeune fille que j'ai eue en colo, dont je me souvenais. Donc, c'est encore plus impactant parce que malheureusement, on est encore plus touché quand on connaît la personne. Et voilà. Que je connaissais, dont je me souvenais très bien, dont j'avais encore des photos dans mon téléphone et tout, et qui me dit, je t'ai retrouvée sur les réseaux, trop contente de ce que tu fais. D'ailleurs, tel colo où j'étais là, enfin, je sais pas si tu te souviens, moi, ma copine, une nuit, pendant qu'on était tous couchés, a eu des relations sexuelles avec tel animateur, qui était un collègue à moi, du coup. Et donc là, moi, ça m'a brisé le cœur parce que c'était encore une fois tellement grave et tellement inimaginable. Ouais. Et surtout que là, je me suis dit, putain, j'étais là en fait, genre cette nuit là j'étais là, et ça m'en... j'ai encore des frissons de ce truc là, je me dis mais je suis partie dormir, et même si c'est pas de ma faute, tu vois, je suis partie dormir moi je suis trop la maman du truc, tu vois, je passe dans les tentes et tout, je leur fais un câlin, bonne nuit, machin, on raconte, on parle, on se confie, et tu te dis bonne nuit, tu vas te coucher, et en fait t'apprends que en fait ton collègue
il a bu de pouvoir et
il l'a rejoint dans les toilettes, et en fait ce qui est un viol, il n'y a pas de relation consentie en fait dans tous les cas. Donc c'est pas, ils ont pas couché ensemble, c'est un viol, et le pire c'est que la gamine en fait des années après se rend compte qu'en fait c'était pas normal, enfin pour elle dedans, elle était dans une relation amoureuse, etc. Sauf que quand t'as 13-14 ans, forcément t'as 13-14 ans, t'as un animateur beau, grand, nanana, qui a 25 ans, toi tu plonges mais
c'est un abus de pouvoir et qui est une agression et qui légitime des trucs,
et des années après tu te dis, ah putain, mais en fait si s'il y avait eu plus de prévention, si on m'avait dit que ça c'est pas normal, à 13 ans je serais peut-être pas
si j'avais eu le choix,
voilà, exactement. et donc ça m'a genre j'ai fini mais en pleurs toute la soirée quand j'ai reçu ce témoignage là et du coup une semaine après j'avais déjà tout organisé pour monter un truc. Et ça a décollé très rapidement parce qu'en même pas l'espace d'un mois, en fait, j'ai eu plus de 400 témoignages, quoi. Ouais. C'est énorme, 400 témoignages en un mois.
Mais en fait, c'est terrible parce que malheureusement, les métiers attirent des profils types aussi. Mmh. C'est-à-dire que, dans les métiers qui touchent à l'enfance, il y a plus de risques de retrouver...
Il y a des pyromanes chez les pompiers.
Exactement.
Il y a
des pédophiles dans les métiers qui touchent... Et le problème, attention, je suis pas en train de dire que tous les gens qui travaillent...
Non, bien sûr, mais...
ne généralisons pas, bien évidemment, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que...
Ah oui, bien sûr que c'est une réalité. Et il y a une phrase, moi j'avais lu une phrase qui m'avait horrifiée, mais je pense que c'est vraiment la réalité, qui disait que nous, on faisait nos courses au supermarché et que les pédocriminels, bah, ils font leurs courses dans les domaines qui touchent aux enfants, quoi. Les écoles, les...
En fait, tu vois, les colonies et tout, c'est pas si encadré que ça. Enfin, je veux dire, sur le BAFA
c'est
et tout...
C'est pas du tout encadré.
C'est pas du tout,
Enfin, moi, pour en avoir fait quelques-unes et tout, il y avait des trucs, mais...
En fait, ça peut l'être comme ça
déjà,
peut...
Déjà, le BAFA, ne pas l'être. La formation, elle est quand même...
Elle est très minime, quand même. Elle est vraiment light. Et puis, même, ça dépend en plus de qui t'encadre. Tu auras des gens très, 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 très problématiques, comme moi, j'ai déjà pu voir. Et même dans les témoignages que j'ai reçus, j'ai des jeunes filles qui témoignent de violences sexuelles, donc d'agression, d'harcèlement et de viol qu'elles ont, enfin dont elles ont été victimes pendant la formation du BAFA.
Tu vois, à partir de
donc en fait à partir du moment où les personnes te forment sont potentiellement des agresseurs, des violeurs, enfin et des agresseurs aussi parce qu'il y a aussi des femmes. Et je vois pas comment tu veux que les animateurs et animatrices soient bien formés en fait.
Clairement. Mais comment toi tu te protèges au niveau de ta santé mentale face à tout ça, parce que lire 400
questions pièges. Bah moi c'était un peu compliqué et d'ailleurs je pense que c'est la deuxième fois qu'on me le demande. Genre et ça j'ai trouvé ça fou aussi. C'est qu'en 6 mois d'interview de machin de trucs sur tous les médias, il y a pas un média, il y a un seul média. Et c'était Néon Mag, il me semble, d'ailleurs, petite dédicace, qui m'a demandé, mais toi, est-ce que ça va?
Bah ouais.
Parce que moi, ça n'allait pas du tout, en fait. Tu vois, personne s'est dit, bah, tiens, peut-être recevoir 400 témoignages.
Moi, j'en ai des frissons alors qu'on est en podcast, tu vois, et qu'on n'a même pas les trucs. Enfin,
tu vois,
je me dis, comment tu fais pour te préserver? Parce que oui, d'accord, t'es dans le militantisme, oui, tu engages quelque chose, c'est important pour toi et tout, mais ça veut pas dire que t'es.
Ah non, bah, tu dois plus te. Voilà, c'est ça, que tu dois pas te sacrifier pour ça. Et c'est, je pense qu'après, c'est compliqué. Et y a... je pense que quand tu t'investis autant dans un truc, déjà qui te prend un cœur comme ça et qui est aussi dur, comme beaucoup, enfin comme le militantisme de manière générale, tous les militants vont te dire que au bout d'un moment t'as un burn-out, tu satures en fait parce que c'est pas possible et que ça prend toute ta personne, toute ton énergie. Et du coup, bah moi dès le début, donc j'étais quand même très bien accompagnée par de très bons amis à moi, ou même au début c'était des, on faisait, qui sont militants aussi, on faisait un relais par exemple pour les témoignages, je traitais pas ça toute seule. Mais après il est venu un moment où j'étais quand même bien seule et du coup, bah, là, j'ai fait une pause. Enfin, là, par exemple, le compte du Mito Animation pendant juillet-août, désert.
Mais il faut.
Et parce que c'était pas possible.
Mais il faut.
Et que j'en pouvais plus, quoi. Enfin, j'en pouvais plus du tout, du tout, du tout. Et puis, en fait, en plus, c'est un cercle assez vicieux dans le sens où, en fait, au début, c'est hyper violent. Et en fait, après, ben, en fait, c'est horrible, mais t'as l'impression de plus rien ressentir parce que c'est que des mots. En fait, tu dis ça à longueur de journée où, du coup, ben, en fait, ça a plus de. En fait, ça perd sa connotation. C'est, tellement
c'est,
tu vois.
C'est juste que en fait le cerveau est bien fait, tu t'anesthésies, oui, ça, tu vois.
Exactement.
Quelque part, enfin, c'est pas forcément que t'es moins touché, mais c'est que
non, t'as l'impression de moins l'être parce que c'est le cerveau qui fonctionne comme ça.
C'est comme des soignants qui, par exemple, sont en soins palliatifs, etc., qui font face à la mort tous les jours. Bah, au bout d'un moment,
oui, ça arrête plus dessus parce que t'es obligé
de développer des mécanismes pour
c'est
protéger.
Des mécanismes
ou
que
même en tant que psychologue, tu vois.
Ah bah oui, c'est clair. C'est clair.
Toute la journée, bah, en fait, t'es hyper empathique. Il y a des histoires qui vont toujours plus te toucher que d'autres, mais à un moment donné,
mais oui, faut faire
des stratégies pour te protéger parce que c'est éprouvant et que ça peut impacter ton moral en fait.
Ah oui, ça peut et ça impacte. Mais en plus, est-ce que je disais que c'est un faux semblant dans le sens où t'as l'impression que ça te touche plus, mais en fait, enfin moi ça m'a fait ça. C'était courant avril-mai. J'avais fait ça pendant je sais pas 3-4 jours, mais full 3-4 jours de témoignage toute la journée et tout. J'écrivais des trucs et tout et ça me faisait rien. Je disais tiens c'est horrible de dire que ça te fait plus rien. Et en fait, au bout de la semaine, j'étais en pleurs. Et en crise d'angoisse chez moi.
T'accumules.
Et en fait, c'est parce que j'ai explosé de la semaine. Et en fait, ça te bouffe des fois sans t'en rendre compte.
Hein.
Et...
bien sûr.
Ouais, c'est vraiment ça. Et du coup, bah là, moi, je travaille beaucoup. Enfin, je suis quand même bien entourée. Et je travaille beaucoup pour être davantage entourée. Je vais commencer à faire appel à des gens pour travailler avec moi, pour être encore plus entourée que je le suis maintenant, parce que c'est trop dur. C'est un truc qu'on peut pas gérer seul. Et puis
t'as envie de donner, j'imagine, une autre, enfin, de poursuivre, tu vois, le fait que ce soit devenu une association, etc. J'imagine que t'as
c'est
envie
ça.
Que ça aille encore plus loin. Et du coup, ça veut dire aussi s'entourer et cadrer.
C'est clair. Enfin, moi, à la base, c'était un cri d'alerte, en fait, où il fallait libérer la parole sur ce sujet-là, comme en fait chaque MeToo qui est né, que ce soit MeToo inceste, soit MeToo, enfin voilà tout ça. Et après, bah oui, si je l'ai fait passer en association, c'est parce que je veux que ça devienne vraiment quelque chose d'important, enfin une asso vraiment importante. Je veux commencer à faire de la prévention dans les collèges et lycées, je veux commencer à former les animateurs et animatrices sur les violences sexuelles. Donc voilà tout ça. Et oui, du coup, il va falloir s'entourer, que ce soit de personnes qui travaillent dans le milieu juridique, de psychothérapeutes, de gens qui sont formés dans le milieu, enfin, je sais pas si c'est pas un milieu, mais en tout cas aux violences sexuelles, tu vois.
Donc,
dans tous les cas, pour que ça devienne un truc plus important, c'était le but, c'était pas juste que ce soit quelque chose pour dénoncer les.
Oui, tu veux qu'il y ait un impact en fait.
Ah oui, je veux qu'il y ait un impact.
Il y a une mise en action derrière.
Il y en aura, et je sais qu'il y en aura parce que je travaille sur beaucoup de projets en ce moment et je suis très contente de l'ampleur, je pense que ça va prendre et des impacts qu'il y aura. Mais c'est dur. C'est grave dur et les gens, je pense, ne s'en rendent pas compte du tout, du tout, du tout, du tout.
Non, vraiment. Ce que ça implique pour toi.
Ouais, ah ouais, c'est les gens ne s'en rendent pas compte. Hein. Moi, c'est un truc que je sature, quoi. Enfin, en fait, c'est devenu omniprésent. En fait, vu que ça a fait la une de tout et que, en fait, l'asso, elle est personnifiée parce que c'est moi, mais ça ne pouvait pas le faire autrement parce que ça a pris aussi cet impact-là parce que c'est une influenceuse et Dieu merci, tu vois, j'avais cette étiquette d'influenceuse, de tiktokeuse qui, ça sortait de la norme qu'une influenceuse parle d'un sujet aussi, aussi grave. Mais du coup, vu que c'est collé sur mon front, la dernière fois, anecdote de la vie réelle, quoi. J'étais posée en terrasse, du coup, d'un café avec des copines et on était là entre potes à discuter, tu sais, nos histoires, machin. Et t'as une jeune fille qui vient vers moi, coucou Anissa, trop contente de te croiser. Ça arrive souvent, du coup, je dis coucou, ça va, machin. Et elle me dit, ouais, du coup, c'est toi qui as créé le mutualisation, c'est super. Et moi, d'ailleurs, elle commence à me raconter, elle commence à témoigner, en fait, d'un cas qui se passe dans l'école où elle travaille, où elle est animatrice. Mmh. Et il était 16h30 de l'après-midi, je la regarde. Et en fait, j'ai eu un rire nerveux. Je lui ai dit, non. Parce que là, je sais pas, c'est ce que tu t'apprêtes à faire. Mais à la limite, en fait, tu m'écris sur le compte de mutualisation, on voit ce qu'on peut faire, on voit vers qui on peut te rediriger, etc.
Elle allait te déposer ça là dans un moment.
Mais tu me déposes pas un témoignage de viol là.
C'est
au point de la rue dans un café, enfin tu vois, c'est pas possible. Et, sauf que les gens et je leur en veux même pas parce que les gens se rendent pas compte déjà quand t'es une personnalité publique et quand t'incarnes ça que y a un être humain derrière qui a des sentiments, tu vois, et que moi je peux pas en fait vivre 24/24 violence sexuelle j'ai 22 ans, quoi.
Ouais, c'est dur. C'est clair, mais
aussi, tu vois,
c'est bien pour ça que
je te dis ça, mais je t'ai pris les exemples des soignants ou même des psychologues, mais on a une formation quand même derrière aussi, tu vois, enfin qui nous aide aussi à prendre du recul, etc. Enfin,
c'est obligé de façon
voilà, ça en devient ta vie, comme quoi. Ça peut être effectivement
ça peut être même violent, plus nocif que tu vois que ce que tu as envie de toi mettre en place et te bloquer dans cette envie de passer à l'action, tu vois.
Exactement,
parce que c'est ça.
Mais tu vois, genre dans ces moments quand même où je me dis waouh, ça me tue, et même dans ma vie personnelle, dans mes relations, etc., ça a un impact. Il y a quand même, tu vois, genre un truc qui fait un peu contre moi, je me dis, mais en fait dans tous les cas je peux même pas regretter parce que déjà je suis trop fière de ce que j'ai fait. Mais je me dis, dans tous les cas, si ça n'avait pas été moi, je pense que personne ne l'aurait fait. Je pense que vraiment, personne n'en aurait parlé.
Ça fait c'est vrai que moi,
ça fait des années. J'ai des témoignages, ils datent des années. Avant l'an 2000, quoi. Les colonies de vacances, les camps de vacances, ça existe depuis la nuit des temps.
Bien sûr.
Et dans tous les cas, la pédocriminalité, la violence faite aux enfants, elle existe depuis longtemps. Et je me dis, ne serait-ce que là, la CIVIS, la commission indépendante qui s'occupe de toutes les violences faites aux enfants et l'inceste et tout, a été créée en 2021. Ouais. C'est fou, en fait.
Non, mais
2021, les violences faites aux enfants, ça date de l'âge de pierre.
Oui, mais tu sais, la loi qui dit que t'as pas le droit de frapper ton enfant pour l'éduquer, elle date de 2019.
Oui, tu vois. Donc il y a plein de trucs à faire.
Beaucoup de chemin là-dessus. Enfin, c'est quand tu vois qu'il y a eu carrément du militantisme contre cette loi. Enfin, tu te dis.
Ouais,
on veut frapper nos enfants. S'il vous plaît, laissez-nous les frapper.
C'est parce que c'est un berceau de violence et qui crée aussi la société dans laquelle on est. Et tu vois, et c'est pour ça que les podcasts et tout ce qu'on fait, et tu vois, le contenu que tu crées et que plein d'autres créateurs de contenu, c'est hyper important parce que c'est un autre environnement qui s'ouvre aussi à des personnes qui n'ont pas la chance entre guillemets d'avoir cet environnement aussi soutenant et on va dire éduqué. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. En fait, on ne voit pas le temps passer, ça fait déjà une heure qu'on parle. C'est fou, mais c'était très très intéressant. De toute façon, on mettra en barre d'infos de ce podcast toutes les infos pour retrouver.
Écoute, en tout cas, l'expérience podcast dans le sauna, moi ça me plaît bien.
C'est vrai que vous ne savez pas,
finalement,
mais là,
ça va, il fait pas si chaud que ça. L'hôtel est en ébullition.
Une fois, c'est moi qui est trop chaud. Alors tout à l'heure, je vous dis, j'aime bien la chaleur.
Les sudistes, ça parle trop vite.
Écoute, jamais content si tu te dis.
On était animés, je pense, par ce débat et du coup, ça a fait monter l'émotion, le corps.
C'est ça, c'est les émotions finalement, elles sont toujours là.
En tout cas, merci beaucoup Anissa et puis
merci à vous deux.
À très vite, bye.
Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé, ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co. À la semaine prochaine.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.